C'est le temps de parler des nouvelles de la francophonie canadienne. Julien Caillouette est directeur de l'information à Franco-Presse. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Alors, les médias en milieu minoritaire déçus du retour de la publicité fédérale sur Facebook.
On a vu ça, ça a été dévoilé par d'autres médias il y a 2 semaines. Donc, petit rappel, qu'en juillet 2023, Meta a banni les médias canadiens de ses plateformes Facebook et Instagram à cause de la loi sur les nouvelles en ligne, là, avec laquelle le gouvernement fédéral demande aux grandes entreprises de s'entendre avec les médias pour une compensation pour le partage de leur contenu. Quand Meta a banni comme ça les médias de ses plateformes, le gouvernement a dit « OK, ben on va arrêter d'acheter de la publicité sur Facebook et Instagram ». Ce qu'on a découvert, c'est qu'en janvier, ils ont recommencé à acheter de la publicité. Entre autres, il y a 270 000 $ qui a été dépensé sur le congé de taxes, le congé de TPS, une campagne publicitaire pour en faire l'annonce, la promotion. Il y a aussi eu d'autres campagnes. Bref, dans tout ça, nous, on est allé voir les médias de langue minoritaire au Canada qui disent très déçus de ce revirement de situation. On dit qu'on aurait pu plutôt que de dépenser de l'argent dans des plateformes américaines, qu'on aurait pu l'investir au Canada. Puis surtout dans le climat actuel de boycott et de colère un peu contre les États-Unis et certaines décisions de Facebook, les médias se posent la question, est-ce que c'était vraiment une bonne décision d'aller de ce côté-là? En même temps, le gouvernement se défend un peu, on dit, bon, ben, c'est pas parce que qu'on achète de l'argent, qu'on endosse ce que Meta fait. Mais nous, on a continué les recherches un peu plus loin qu'on a cherché d'autres personnes qui avaient fait de l'annonce sur les plateformes de Meta. Puis on a découvert, ben, les partis politiques n'avaient jamais dit qu'ils boycottaient Meta, donc ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait qu'on a pu voir que au cours des derniers mois, le Parti conservateur a acheté pour plus de 600 000 $ d'annonces sur Meta. Puis les libéraux, c'est 260 000. Pierre Poilievre et Justin Trudeau aussi en ont aussi acheté un peu. Puis il y a les candidats à la direction du Parti libéral qui en ont acheté, entre autres Mark Carney, qui a dépensé 130 000 $ en annonces sur Meta, et Chrystia Freeland, un petit 9 000 $.
Oui, quand on sait que les ventes, en fait, les achats de publicité sur Meta, sur les réseaux sociaux américains, aux États-Unis, il n'y a pas de taxes à payer là-dessus. Dis ça en passant. En plus. Désaccord linguistique dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, ça vient du Moniteur acadien.
Je pense que je vous ai parlé l'année passée d'une situation qui avait lieu à Beausoleil, une petite ville dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, où on avait voté on voulait mettre en place un règlement sur l'affichage pour prioriser le français, un peu comme la loi 101 au Québec, dans le fond. Puis ça avait créé des désaccords. Et ce qui était surprenant, c'était surtout les francophones qui étaient en désaccord avec ce règlement-là. Cette fois-ci, c'est dans la ville de Beaurivage qui s'est passé quelque chose il y a quelques semaines. Il y avait une motion sur la table qui déclarait dans le préambule que la ville était francophone et qu'elle allait offrir des services en français. C'est une mention que Beaurivage est, d'après le Moniteur acadien, 72% des habitants se disent francophones, donc majorité francophone. Les services bilingues seraient restés, donc on ne dit pas qu'il y aurait une baisse de services, c'était juste une affirmation identitaire dans le préambule du règlement. Mais pendant une réunion municipale, il y a eu beaucoup de plaintes. Les citoyens se sont insurgés un peu contre la mesure, disaient que c'était pas une bonne façon de traiter les anglophones, puis que tout le monde parlait les deux langues et que c'était normal. Puis certaines personnes avaient des commentaires relativement hargneux. Donc, c'est une... De vue par certains, c'est une drôle de situation où les francophones, certains, ceux qui étaient pour la mesure, disent, rappellent, il faut défendre la langue française, elle est en danger. Et de l'autre côté, il y a les francophones qui, on dirait, ne veulent pas faire de mal aux anglophones qui, étrangement, se plaignent beaucoup moins que les francophones.
Oui, puis il faut dire que la langue anglaise n'est pas menacée d'extinction comme la langue française. Hein? Ça faut toujours prendre ça en considération dans ces débats-là. Des classes qui pourraient fermer temporairement faute d'enseignants dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, c'est l'Acadie Nouvelle qui rapporte ça.
Oui, c'est le district scolaire du Nord-Est qui explique que fermer des classes est une mesure de dernier recours, mais que ça pourrait arriver au cours des prochaines semaines. Il explique en disant que ben, qu'il y a beaucoup d'absences aussi bien chez les élèves que les professeurs. Puis bon, il y a la grippe, d'autres virus là-dedans, mais c'est pas la seule raison, mais c'est la saison de la grippe. Donc oui, il y a plus d'absences qu'à d'autres moments de l'année. On nous dit que certains jours, il y a jusqu'à 10 % du personnel qui est absent. Puis avec les difficultés de recrutement d'enseignants qu'on connaît partout au pays, que ce soit en français ou en anglais, mais on parle des francophones en milieu minoritaire, c'est de plus en plus difficile de remplacer ces absences-là. Une réorganisation de l'effectif qui peut être possible, des fois peut-être mettre deux classes ensemble quand il manque beaucoup d'élèves aussi, mais s'il y a trop d'absences, on nous explique que ça peut arriver qu'on doit fermer temporairement une classe, donc les élèves doivent rester à la maison parce qu'il n'y a pas de... rester à la maison parce qu'il n'y a pas d'enseignants ou peut-être faire d'autres activités à l'école. Apparemment, l'année dernière, dans ce district scolaire-là, c'est arrivé cette fois où on a dû cesser les activités d'une classe de façon temporaire.
On retourne en Ontario. C'est intéressant parce que ça s'en vient. Hein? C'est les élections bientôt, lundi prochain. L'heure des débats dans l'élection ontarienne.
C'est le 27 février et puis il y a eu deux débats autour de la fin de semaine. Il y en avait un vendredi dernier pour le nord de l'Ontario, puis lundi, il y en a eu un pour tout l'Ontario complet. C'était des débats en anglais, évidemment. Doug Ford, dans les deux cas, a été la cible des attaques. Doug Ford, le premier ministre sortant, et c'est un classique. Mais il se présente quand même comme le seul à pouvoir faire face aux menaces de Donald Trump, puis il ne gêne pas non plus pour attaquer lui aussi. Le bilan de certains de ses opposants, surtout Bonnie Crombie, la chef du Parti libéral, qui, elle tente de se servir de son bilan fiscal qu'elle dit bon, comme mairesse de Mississauga, tandis que M. Ford tente de la faire passer pour une incompétente. Les autres partis, eux, essayent de dire que le gouvernement Ford n'a pas tenu ses promesses. Que le système de santé est toujours en mauvais état, les logements restent inabordables, qu'il n'a pas respecté sa promesse deux fois, en fait. Il n'a pas respecté sa promesse de ne pas toucher à la ceinture de verdure autour de Toronto. Malgré tous ces efforts-là, les Ford et les conservateurs sont en avance dans les sondages. Ça semble presque réglé d'avance.
Oui, il faut dire que Donald Ford, excuse-moi, mon Dieu, quel lapsus. Doug Ford a décidé de faire de Donald Trump son adversaire et je pense qu'il a trouvé son vilain et ça l'aide beaucoup dans cette campagne-là.
Il est un peu étrange parce que on entend, pendant la campagne, on a vu des commentaires enregistrés où M. Ford était content que Donald Trump gagne, qu'il l'admirait même. Mm.
Alors, c'est intéressant comment les gens peuvent changer d'idée rapidement et puis on oublie. Pêcher pour l'autisme, éducation, tolérance et traitement, c'est dans On a le choix.
Le journal de Cornwall qui a parlé à une résidente Cathy Cartier qui organisait un événement de bienfaisance pour ramasser des fonds pour un truc qu'elle organise depuis 2020 peut-être. C'est qu'en 2019, elle a amené son fils autiste de 3 ans à la pêche. Puis, elle dit qu'aller pêcher, ça lui fait du bien. C'est une façon de décrocher pour elle, puis c'est relaxant. Mais en amenant son fils, elle s'attendait pas à grand-chose. Elle pensait, en quelques minutes, il va lancer sa canne à pêche à l'eau, puis ça va être fini. Mais non, il est resté assis pendant 2 heures, puis il a pêché avec elle, tranquille, sans problème. Fait qu'au retour à la maison, elle a fait un peu de recherche, elle a lu, puis elle a vu que la pêche pouvait effectivement être une forme de thérapie pour aider les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc, elle a décidé d'organiser annuellement une espèce d'événement de pêche. Puis apparemment, ça regroupe jusqu'à 800 personnes au cours des dernières années. C'est quand même beaucoup de monde à la pêche. Mm-hmm. Mais c'est pas la seule chose qu'elle fait. Elle ramasse aussi des fonds pour pouvoir construire des salles sensorielles pour des familles, donc dans des maisons, un groupe qui arrive puis qui construisent une salle où on sait que des fois les enfants autistes peuvent être hyper stimulés ou pas assez, donc c'est des salles qui peuvent s'adapter à leurs besoins. Puis apparemment, ils sont capables d'en faire à peu près 2 par année. Là, ça fait 2 ans qu'ils font ça. Puis donc c'est une preuve que des petites initiatives locales peuvent faire du bien, surtout qu'en Ontario, depuis l'élection de Doug Ford, les services aux enfants autistes ont beaucoup diminué, je dirais.
Et puis, Yellowknife, des cours de natation en français pour les enfants, ça vient de l'Aquilon?
Oui, ça a l'air d'être une nouvelle... ça peut avoir l'air d'une nouvelle bien ordinaire, mais bon, quand on est en milieu de langue majoritaire, on ne se pose pas la question. En milieu minoritaire, avoir un cours de natation ou autre chose, même n'importe quel sport dans sa langue, ça peut être très compliqué. Puis Yellowknife, étant une ville de plein air entourée de lacs, est au moins sensibilisée. Savoir nager, surtout pour les enfants, ça peut être très important. Et la volonté n'est pas toujours suffisante. On peut vouloir donner des cours, mais ça peut être difficile. Justement, la piscine de Yellowknife avait déjà voulu en organiser, mais n'avait trouvé aucun formateur, aucune personne qui avait la certification pour donner des cours de natation en français. Là, l'initiative est venue d'un autre groupe, puis comme on peut dire en équipe, qu'il y a plus de personnes impliquées, on a réussi à trouver quelqu'un, une personne certifiée pour donner des cours. Donc, ça a commencé, puis il y a même des adultes qui se sont montrés intéressés à suivre les cours.
Bon, on va terminer avec Trouver l'amour en français, mission impossible. Dans mon cas, Trouver l'amour, point, c'est une mission impossible. En tout cas, Trouver l'amour en français, mission impossible, Franco Presse qui a sorti ça.
Oui, on s'est posé la question pour la Saint-Valentin, là, puis bon, si vous dites c'est presque impossible pour vous, imaginez si en plus vous êtes en milieu minoritaire et que vous voulez absolument rencontrer quelqu'un qui parle aussi français, ça devient compliqué. Fait qu'on a fait le tour, en fait, pour voir si c'était essentiel pour les gens et c'était quoi les difficultés. Il y a quelqu'un qui nous a fait, une des personnes avec qui on a parlé, qui nous fait remarquer que juste de choisir de parler, de trouver un conjoint ou une conjointe qui parle français en milieu minoritaire, c'est presque une action politique. C'est une affirmation de son identité et de sa langue. Mais ça diminue le bassin, donc ça peut compliquer la recherche, évidemment. Surtout quand on demeure dans des petites communautés. Mais peu importe dans les communautés où on reste, les communautés francophones sont relativement petites et soudées. Donc on se connaît déjà tous. On a déjà une idée ou non qui accueille déjà quelqu'un ou pas. Puis, ce que nous dit aussi cette personne-là, c'est que pourtant, l'amour et les couples, ça joue un rôle extrêmement important dans la conservation de la langue. On parle beaucoup de la... Il faut le faire à l'école et dans d'autres activités culturelles, mais la langue, l'enfant apprend sa langue maternelle à la maison en premier. Donc, si on parle français à la maison, ben, ça lui donne déjà un meilleur point de départ. Mais à travers ça, c'est pas le seul exemple. Il y a d'autres personnes pour qui c'est pas obligatoire. On dirait pas important. C'est juste pas obligatoire. Si c'est quelqu'un, s'il trouve quelqu'un qui parle français, c'est tant mieux. Si c'est quelqu'un qui s'intéresse à la langue et la culture, ça peut être un bonus. Mais des fois, pour réussir à trouver l'amour, il faut ouvrir un peu ses horizons.
Oui, bon, on est tous bilingues quand vient le temps de l'amour, hein, parce qu'on parle notre langue et l'amour. Julien Clywet, rédacteur en chef de Franco Presse, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.